Bonjour et bienvenue dans cette émission de Mediapart. Aujourd'hui, on va parler des jeunes, ce groupe social très hétérogène qui n'existe en réalité que dans les politiques publiques. Et justement, on va parler du rapport à la politique qu'entretiennent ces 18-29 ans, la politique dite classique, celle du vote et des institutions, des organisations partisanes, mais aussi l'autre politique, celle qui déborde, qui fait débat en dehors des organisations et des institutions. Pour en parler, on accueille Laurent Lardeux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé d'études à l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, et Laura, militante féministe au collectif Stop Ficha.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. On se rencontre à l'occasion de la sortie de cet ouvrage, Génération désenchantée, paru le 23 mars, avec un point d'interrogation très important à la documentation française et dirigé par deux sociologues, vous, Laurent Lardeux, et aussi Vincent Tipéry, professeur des universités à Sciences Po Bordeaux. Et on va d'ailleurs commencer par les absents, puisque en introduction, je vais vous lire quelques lignes rapidement du chapitre 6, « Ni pire, ni meilleur, différent, comment la citoyenneté évolue parmi les jeunes » de Vincent Tibéri. Donc il écrit « C'est un discours entendu très souvent et à des périodes très différentes. Les jeunes sont vus comme une chance, mais aussi une déception, notamment quand il s'agit de leur rôle de citoyen. On blâme leur manque d'engagement supposé, notamment quand il s'agit de la vie de la cité. » Oui, ils votent moins et adhèrent moins aux organisations partisanes. Oui, ils critiquent les institutions et doutent des capacités des élus à résoudre les problèmes. Mais les marches pour le climat sont apparues dans et grâce à la jeunesse. C'est aussi dans cette jeunesse que de nouvelles formes d'action politique se construisent, notamment à travers les réseaux sociaux. Laura, justement, c'est sur les réseaux sociaux que vous avez votre terrain de militantisme, particulièrement depuis le premier confinement. À l'époque, vous aviez 18 ans, pas d'affiliation syndicale, pas affilié non plus à une organisation partisane classique. Et pourtant, avec d'autres jeunes femmes, vous avez décidé de créer ce collectif Stop Ficha. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer ce que c'est ?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une explosion des comptes malveillants qui existaient déjà, mais qui était de plus de forme ponctuelle, dans un lycée, dans une ville, etc. Et là, ça a vraiment été par région, par département, par ville. Et il se passe les nudes, en fait, d'un département à l'autre pour que ça corresponde au département. Et en fait, c'est ça qui est beau dans la formation de notre groupe. C'est que concrètement, là, la quinzaine de cofondatrices qu'on est, du coup, maintenant, l'association Stop Ficha, on n'a pas du tout le même bagage d'engagement. Il y en a, c'est leur tout premier engagement dans un collectif et puis maintenant dans une assoce. Il y en a qui sont politisés, pas du tout. Il y en a qui ont déjà du militantisme dans leur bagage et d'autres pas du tout. Et en fait, c'est ça qui est beau aussi dans notre groupe, c'est qu'on se complète bien parce qu'il y en a qui sont plus institutionnels, d'autres qui n'avaient jamais fait d'engagement avant. Et en fait, tout ça, ça nous divise dans un sens, mais nous, ça nous rassemble dans une lutte qui, en fait, n'a pas de limite politique.
Donc, très concrètement, en fait, vous essayez de vous battre contre ces comptes, vous dites, malveillants, qui diffusent, en fait, des photos. Alors, vous dites porno-divulgation. Comment vous faites vous faites ça sur les réseaux sociaux? Vous travaillez avec Pharos? Comment ça se passe?
Alors en fait, on est un peu espionne dans les comptes. Donc ça va être vraiment sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Snapchat, Instagram, Facebook, Telegram beaucoup, TikTok, Discord. Enfin en fait, vraiment, ça pullule de partout. Comme depuis le premier confinement, il y a eu plus de 70% d'activité sur Internet. Forcément, dans ces 70%, il y a eu de la malveillance qui a grandi aussi depuis. Donc en fait, nous, on infiltre ces comptes ou alors on nous les signale et on est en partenariat avec NetEcoute et Enfance. Donc en fait, grâce à cette collaboration, on arrive à faire supprimer des comptes plus rapidement. Mais après, pour les plateformes qui sont hors champ de contrôle, comme par exemple Telegram, ça devient compliqué. Donc on utilise des méthodes moins institutionnelles, on va dire, pour essayer de les faire supprimer.
Donc on l'entend dans votre parole, la pratique du militantisme politique s'est vraiment déplacée progressivement des organisations partisanes. Laurent Lardeux, l'ouvrage que vous avez dirigé se concentre beaucoup sur le rapport qu'entretiennent ces 18-29 ans à la politique dite classique, c'est-à-dire au vote, aux institutions publiques, enfin très installées. Mais vous dites qu'il y a autre chose. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de comment vous avez fait cette enquête ?
Oui, effectivement. Alors, cette enquête est intégrée à un programme de recherche international, l'enquête européenne sur les valeurs. Et donc, elle existe depuis 1981. Et depuis 1981, tous les 9 à 10 ans, on renouvelle cette enquête et on peut, constater les évolutions qu'il peut y avoir entre les générations. Donc, non pas seulement, comparer les différentes catégories d'âge, les différentes classes d'âge, mais essayer de voir comment ces générations évoluent depuis 1981. Et donc, ça porte sur différents domaines. Ça peut être effectivement les questions de politique, les questions du travail, les questions du rapport aux institutions. Et là, on a travaillé plus spécifiquement effectivement sur la question de la démocratie et de la politique.
D'accord.
Donc avec effectivement l'idée de travailler de façon assez élargie sur la dimension politique, non pas seulement la dimension liée aux partis politiques, liée à des formes de participation plutôt institutionnelles, conventionnelles, mais également des formes plus alternatives qu'on mesure par différentes modalités d'expression politique. Ça peut être effectivement des marches, des manifestations, des grèves, des pétitions, des boycotts. Et voilà, donc on essaye vraiment d'avoir une différente dimension de la participation, de l'engagement des jeunes.
Et ce que vous disiez tout à l'heure, et qui est d'ailleurs très présent dans l'ouvrage, c'est pas tellement que les 18-29 ans se comportent de manière différenciée par rapport aux autres, c'est qu'il y a une génération plus vieille, de 60 ans et plus, qui, elle, se comporte de manière spécifique. Vous pourriez réexpliquer ?
Oui, effectivement. Alors, l'un des enjeux de cette enquête, c'était essayer de voir est-ce qu'il y a un effet d'âge ou un effet de génération. Donc, un effet d'âge, c'est-à-dire essayer de voir est-ce que les 18-29 ans... Est-ce que cette jeunesse-là est protestataire d'abord et avant tout parce qu'elle est jeune, et puis progressivement, en avançant au fur et à mesure des âges, en étant plus autonome financièrement, en étant entré dans la parentalité, tout ce qui permet finalement d'être adulte, progressivement, il rentrerait dans le rang de la démocratie représentative et on accepterait les rouages. Ou est-ce qu'il y a un effet de génération ? Donc ça veut dire que c'est plus durable. Cette génération de jeunes de 18-29 ans resterait protestataire en avançant finalement dans les différentes classes d'âge. Et donc ce qu'on peut voir, et c'est tout l'avantage de cette enquête qui existe depuis 1981, c'est que les jeunes qui étaient jeunes en 1981 et 90 ne le sont plus aujourd'hui, un peu moins. Et donc on peut voir qu'ils ont conservé finalement cette culture protestataire. Ils ne sont pas rentrés justement dans le rang de la démocratie représentative. Et donc on voit qu'il y a plutôt un rapprochement générationnel entre les 18-29 ans et puis les 30-59 ans. Donc s'il y a une véritable une génération qui se distingue des autres, c'est finalement pas tant les jeunes que les plus de 65 ans. Mmh. Donc c'est la dernière génération finalement à vraiment voter de façon quasiment systématique à chacune des élections, quel que soit l'échelon de cette élection, au niveau national comme au niveau local. C'est vraiment la dernière génération encore à s'en remettre véritablement au parti, à avoir un rapport d'allégeance au parti assez fort, comparativement aux autres générations où c'est beaucoup moins le cas.
D'accord. Et justement, bon, on va revenir sur ce chapitre 6. La question posée, c'est quelles sont les différences marquantes dans le rapport à la politique classique entre les jeunes, les trentenaires et les plus de 60 ans. Alors mes collègues vont râler quand je vais dire que les trentenaires ne font pas partie des jeunes, excusez-moi. Mais selon vous, Laura, je vous pose aussi la question, est-ce que votre génération, elle a un rapport au vote, à l'institution, qui diffère de celui, par exemple, de vos parents ou de vos grands-parents ?
Alors, oui. Pourquoi, selon moi, en fait, j'ai l'impression que les générations avant, c'est plus, donc on suit un parti et même s'il y a des scandales, etc., on reste affilié à ce parti. Et voilà, c'est comme une sorte de fidélité. J'ai l'impression que c'est un peu comme ce décalage maintenant avec le taux de divorce et de séparation. Ça fait un peu cette idée-là dans ma tête, c'est-à-dire que une fois que voilà, on se dit moi, c'est les Républicains ou les socialistes. Bah, en fait, on va continuer comme ça toute sa vie, même s'il y a quelques scandales. Et en fait, maintenant, bah, on est plus dans la remise en question de est-ce que vraiment, finalement, si ça part dans ce sens-là, le parti dans lequel je m'étais mis, est-ce que j'y reste vraiment ? En fait, j'ai l'impression qu'on a moins peur de changer et de bouleverser un peu, que ce soit nos habitudes, nos engagements politiques. Voilà. j'ai l'impression qu'on est plus dans cet esprit de changement qui nous fait moins peur, mais peut-être parce qu'aussi on est peut-être plus en capacité par rapport à la situation qu'avaient nos parents avant, ou voilà.
Et est-ce que ce dont on parlait juste avant l'enregistrement, c'est qu'il y a aussi des engagements peut-être plus ciblés, mais multiples. Vous, par exemple, vous n'êtes pas militante Castop Vija, vous aviez avant ça, alors que vous aviez que 18 ans, déjà des engagements dans des collectifs. Vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Ouais, bah alors du coup, oui, je ne suis pas du tout affiliée politiquement et ça ne m'empêche pas de militer quand même. Et ça, c'est chouette de se rendre compte qu'on n'est pas obligé de s'engager vraiment, sceller une union pour militer. Moi, j'ai fait partie et je fais encore partie de tout ce qui est organisation de manifs écolo. J'ai été dans Extinction Rébellion. Je suis dans Ecophilia, c'est une association écolo sur Poitiers. Je suis aussi dans Body System Réfugiés au pôle TDS. Donc en fait, on donne des cours à des réfugiés pour qu'ils s'intègrent dans le système, et là plus particulièrement pour des femmes en grande précarité. Donc Stop Ficha. J'ai été aussi formée comme ambassadrice en anti-harcèlement, donc c'est quand même lié à mon engagement Stop Ficha maintenant. Et puis voilà, je suis aussi dans, en fait, j'organise des collages dans plusieurs villes. Voilà, ça peut être lié du coup à la cause Ouïghour, à la cause écolo. Je suis très militante aussi dans les questions LGBTQI+.
Et donc, ça fait beaucoup tout ça. Vous avez le temps de faire, voilà, tout ça quand? Exactement.
Non, mais en fait, c'est par passion. Une fois qu'on prend conscience qu'il y a plein de problèmes, c'est très difficile de choisir une cause qui vaut plus qu'une autre, en fait.
Et d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule. Beaucoup dans les manifestations aujourd'hui, écolo, mais pas que, aussi contre les violences policières, on retrouve des gens de plus en plus jeunes. Moi, c'est quelque chose auquel j'étais pas habituée. Dans l'ouvrage, on parle de 4 types de citoyenneté, sophistiquée, ordinaire, autodidacte et distant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et parmi ces 4 typologies, ces jeunes-là, ils sont...
Alors, ils sont à différents endroits. C'est vrai que c'est Vincent Tibéri qui a construit cette typologie qui est très intéressante, parce que il est parti du principe, en reprenant notamment des travaux de Ronald Engelhardt, qui parlait du lien qu'il pouvait y avoir entre la connaissance, la compétence et puis l'appétence en politique. C'est-à-dire que avec l'élévation du niveau de diplôme, notamment, on allait avoir des jeunes qui allaient plus s'intéresser, s'impliquer à la politique. Donc voilà, c'est là où la connaissance pouvait créer de l'appétence. Et en fait, ce qui s'est passé, et on le voit notamment à travers cette dernière édition de l'enquête, c'est qu'il y a plutôt le stock, finalement, des citoyens qu'on appelle distants, c'est agrandi, c'est-à-dire des citoyens distants, ce sont des citoyens qui ont les connaissances, les compétences pour s'intéresser et participer à la politique, et pourtant, ils se mettent plutôt en retrait de la démocratie représentative, des logiques purement partisanes, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces jeunes-là ont les codes pour décrypter la politique, et c'est justement parce qu'ils ont les moyens de bien comprendre comment fonctionne la politique qu'ils ne veulent pas jouer le jeu, finalement. Comme le dit Vincent Tibéri, on ne peut plus la faire maintenant. C'est une génération qui, justement, parvient à décrypter, à décoder la politique. Et voilà, donc finalement, cette connaissance, cette compétence n'a pas créé l'appétence comme on pouvait s'y attendre. Au contraire, ça a créé finalement des jeunes citoyens qui peuvent être virulents, qui ont des choses à dire, qui adhèrent à un certain nombre de valeurs, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Elles peuvent être progressistes comme des valeurs plus conservatrices. Ça peut être des valeurs pour la croissance ou d'autres qui sont pour d'autres modalités économiques. Donc il peut y avoir en tout cas très clairement des valeurs très affirmées, mais pour autant, ce n'est pas des jeunes qui vont s'affilier politiquement ou qui vont participer au jeu de la démocratie représentative.
Et les distants, donc on le disait, ils sont de plus en plus nombreux, y compris dans la jeunesse, quand bien même il y a de grandes différences dans ce qu'on appelle la jeunesse. Il y a les fils de pauvres et les fils de riches, les ruraux et les urbains, il y a les femmes et les hommes. Et vous expliquez très bien dans le livre qu'il y a des différences. Reste quand même que les chiffres sont parlants. Selon une étude de l'INSEE publiée en fin 2017, moins d'un électeur sur 5 âgé de moins de 29 ans a voté à tous les tours des élections de 2017. Alors c'est un chiffre vraiment très bas, hein. C'est un record puisque c'est le taux le plus faible en 15 ans d'échéance électorale. Est-ce que ça, c'est quand même pas un peu dangereux? C'est une question que je vous pose à tous les deux, puisque pour le moment, des choses comme l'augmentation des bourses étudiantes, la construction des HLM, la politique économique du pays, le maintien des services publics, l'état de l'enseignement supérieur et encore plein de choses. Tout ça dépend encore d'élections, d'élus. Donc est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de s'extirper complètement du système classique de la politique ?
Allez-y. Ce qui serait véritablement dangereux, je pense, c'est la situation où les jeunes n'auraient rien à dire, où des jeunes seraient plutôt en retrait complètement de la politique, quelle qu'elle soit. Ce qui serait dangereux, c'est effectivement qu'ils ne s'exprimeraient pas politiquement. Or, ils s'expriment, effectivement, dans d'autres voies et dans d'autres modalités d'expression politique. Le danger, effectivement, il est plutôt dans le fait que cette expression, cette adhésion à un certain nombre de valeurs sont effectivement plus difficilement entendues par la politique et les élus actuellement. C'est ce qu'on constate vraiment dans cette enquête. C'est vraiment ce décalage qu'il peut y avoir entre des aspirations très fortes et des niveaux d'exigence extrêmement importants de la part des jeunes sur les questions politiques et en même temps, finalement, l'absence de prise en compte de ces aspirations ou un État qui serait, selon eux, encore une fois, défaillant pour prévenir notamment les risques d'inégalité croissante qu'on observe chez les jeunes, pour essayer d'avoir plus de justice globale, pour mieux prendre en compte effectivement les questions climatiques, par exemple. Donc le vrai danger, ce n'est pas effectivement que les jeunes se retirent finalement de la démocratie représentative. Le danger, effectivement, c'est que leur voix est moins entendue dans d'autres sphères et n'est pas suffisamment, semble-t-il, prise en compte par les élus aujourd'hui.
Le pouvoir public, oui. Laura, c'est une impression que vous partagez, le fait de ne pas être entendue par les pouvoirs publics quand bien même vous dites vos désaccords et vos idées ?
Oui, bah, en fait, c'est une lutte de tous les jours, de cris dans la rue, de militantisme sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, on s'y fait dans le sens où on se dit est-ce qu'on se met dans un parti ? Est-ce qu'on s'engage plus institutionnellement et on prend le risque de pas forcément être en accord, ou est-ce que on veut vraiment rester dans ses propres valeurs et quand même rejoindre des collectifs et militer ensemble? C'est plus dur, mais en fait je me vois pas aller dans un parti maintenant parce que je me sens mieux, je me sens plus libre de me dire y a pas une personne qui représente ce parti qui va faire un scandale ou dire des choses sur lesquelles fondamentalement je ne peux pas être d'accord. Et du coup, c'est plus difficile de se faire entendre. Mais d'un autre côté, on trouve des alternatives à tout ce qu'on peut revendiquer, en fait, notamment avec les ZAD, si c'est des questions de sortir du système. En fait, à chaque fois, il y a de fait, de ce décrochage institutionnel, des choses qui se mettent en place sans les institutions. Et en fait, les institutions, elles sont petit à petit obligées de faire avec ce qui se fait à côté. Et du coup, ça améliore quand même. Et par contre, le danger, oui, de ce chiffre, c'est qu'on laisse la place à des partis fascistes, en fait. Et ça, c'est quand même un danger de se dire là, on n'en est pas à de l'extrême droite, mais le jour où, en fait, il y a un tel décrochage que ceux qui sont très à droite sont tous allés voter de leur côté. Là, ça deviendra très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut quand même s'intéresser à tout ce qui est parti politique et être sympathisante s'il faut et si on a envie. Mais c'est vrai que le danger, c'est quand même que ça se retourne contre nous de se dire on ne veut pas être affilié à un parti où on n'est juste pas trop d'accord sur quelques points, en fait.
Donc, vous les gardez à l'œil, mais distant, c'est ça?
En fait, c'est comme par rapport au fait d'être anticapitaliste. On est dans un système capitaliste, donc il y a des trucs, on ne peut pas s'empêcher toute notre vie d'être en lien. Donc, ça fait un peu comme ça, j'ai l'impression, par rapport à la politique. On est dans un système institutionnel, on ne peut pas faire... On peut, mais alors c'est très compliqué d'être complètement dans l'anti-institutionnel... Enfin, en fait, dans toute notre vie, notre vie est rythmée que par des institutions et des papiers et de l'administration. Et en fait, si on sort de tout ça, c'est un gros choc de vie. Il y en a qui y arrivent, mais quand même très peu.
D'accord. Laurent Lardeux, est-ce que les jeunes français, les 18-29 ans, sont moins attachés ou plus attachés à la démocratie que les autres ?
Alors effectivement, on a mesuré cette question-là sur les aspirations à la démocratie et les attentes que les jeunes peuvent en avoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été menés ces dernières années sur ce rapport des jeunes à la démocratie. On parle beaucoup effectivement de l'abstention, du rapport d'allégeance qui serait au parti, qui serait beaucoup moindre, enfin moindre par rapport à avant. On parle d'un certain intérêt des jeunes pour notamment des partis ou des régimes non démocratiques. Donc effectivement, il y a une situation, des constats régulièrement repris, où on parle notamment de déconsolidation démocratique. Donc là, on a des chercheurs qui ont travaillé sur le sujet et qui reviennent sur cette question de la déconsolidation démocratique. C'est-à-dire qu'on a souvent pensé que une démocratie, une fois installée, ne pouvait aller que vers finalement son affermissement, sa consolidation. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y aurait plutôt une déconsolidation et que les jeunes seraient justement les principaux responsable de cette déconsolidation. Donc il y a effectivement une question qui est posée dans l'enquête qui vise à comprendre leur intérêt pour différents types de régimes. Donc bien sûr le régime démocratique, aussi le régime autoritaire, le régime militaire, le régime qui serait uniquement gouverné par des experts sans passer par le Parlement. Mmh. Et donc on voit que déjà il y a un plébiscite pour le régime démocratique, donc ça c'est important de le signaler, c'est-à-dire qu'on a 94% des jeunes quand même de 18-29 ans qui considèrent qu'un bon régime que la démocratie est un bon ou très bon régime, donc c'est quand même extrêmement important. Maintenant, il y a des ambivalences, c'est-à-dire qu'on voit quand même aussi que les régimes non démocratiques, autoritaires, sont aussi en constante augmentation depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc ça, c'est des choses qu'on observe. Là, cette dernière édition, on voit effectivement, par exemple, qu'il y a une augmentation importante de l'intérêt porté pour des régimes militaires, par exemple. Mmh. Donc ça reste extrêmement minoritaire, mais cela dit, il y a quand même des augmentations qui existent.
Et pourquoi, selon vous, pourquoi cette évolution, quand bien même il reste très minoritaire ?
Alors, nous, l'idée, c'était effectivement d'aller au-delà de ce constat, d'essayer de comprendre s'il y a des critiques qui sont adressées à la démocratie, s'il y a des intérêts pour des régimes non démocratiques. Il s'agit aussi de savoir quelles attentes peuvent en avoir les jeunes. Donc, la question est posée dans l'enquête de savoir, effectivement, quelles seraient pour eux les choses à améliorer dans la démocratie. Et ce qui revient vraiment de façon évidente par rapport, surtout pour les jeunes par rapport à d'autres générations, c'est une exigence très forte pour un État plus redistributif, pour plus de solidarité, que l'État doit permettre plus de solidarité, effectivement, plus d'aide, plus d'État, alors plus d'État-providence notamment, ça c'est un élément effectivement qui revient dans l'enquête. En tout cas, un besoin très clair de justice globale, et ça c'est un élément important. Et si l'État est défaillant sur ces points-là, effectivement, on va voir qu'il va y avoir une forme de déconsolidation démocratique, ou en tout cas un retrait plus marqué des jeunes qui seront plus critiques et qui considéreront que l'État, finalement, a pu échouer sur certains domaines, notamment par rapport à ces attentes qu'ils peuvent en avoir.
Oui, donc des jeunes très, très exigeants avec la démocratie. Il y aurait aujourd'hui 1000 luttes dont on pourrait parler, mais on va se concentrer sur l'une d'entre elles, la lutte des classes. On le disait tout au début de l'entretien, les jeunes sont un groupe social qui n'existe pas, qui a été créé par des politiques publiques leur étant dédiées. Il y a des jeunesses aux réalités sociales très différentes. Dans le premier chapitre que vous avez coécrit avec Yael Amselem-Mengi, vous revenez sur les inégalités et les crises qui touchent plus durement les jeunes, parmi eux les plus précaires. Donc ces inégalités, elles existaient déjà avant la crise, mais comme en 2008, la crise de 2020, elle vient accentuer ces faits-là. Pour les jeunes les moins bien lotis, on parle d'un marché de l'emploi peu stable. Nous, on a écrit maintes fois sur Mediapart qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver un apprentissage, très difficile de trouver un stage, très difficile de s'intégrer sur le marché du travail en pleine crise, une date de départ du foyer parental qui ne cesse d'être plus tardif, une précarité toujours plus prégnante et face à ça, des politiques publiques, il faut quand même le dire, qui sont bien en deçà des besoins réels. Est-ce que tous ces éléments-là, ils ont un rapport avec l'engagement dans la jeunesse ? Est-ce qu'il y a un lien, en fait, entre les inégalités et l'engagement des jeunes ?
Alors, sur la question des inégalités, effectivement, on en parle beaucoup en ce moment. La situation est simplement exacerbée aujourd'hui. C'est-à-dire que les traits sont très accentués pour ce qui s'agit des questions d'inégalités intragénérationnelles, c'est-à-dire entre les jeunes, mais aussi intergénérationnelles, entre les générations. Ces inégalités, elles se sont accrues, mais elles étaient déjà bien présentes depuis les années 90, depuis les différentes vagues successives de crises qu'a pu y avoir, et encore plus depuis la grande récession de 2008. Le taux de chômage, il atteint aujourd'hui plus de 20% chez les 18-29 ans, donc c'est quand même des chiffres extrêmement importants. Mais ce n'est pas nouveau. Déjà, depuis les années 90, ce taux de chômage, il n'est jamais descendu en dessous de 15% pour les jeunes, sachant que dans les années 80, ce taux de chômage, il n'était qu'à 5%. Donc il y a quand même des différences très importantes en termes d'accès au premier emploi, en termes d'insertion professionnelle pour les jeunes, où les problématiques sont complètement différentes aujourd'hui par rapport aux années 70. Ensuite, il y a un taux de précarité très important aussi, c'est-à-dire que la part des emplois en CDD, en intérim, en apprentissage, est en constante augmentation également depuis maintenant 20 ans. C'est très important. Donc effectivement, ces situations-là, ces inégalités, cette précarisation, elle existe depuis maintenant un certain nombre d'années. Et donc ce qui peut expliquer aussi certaines convergences générationnelles qu'il peut y avoir dans cette forme de défiance à l'égard de la démocratie représentative. C'est-à-dire que s'il y a un rapprochement, une convergence générationnelle, elle est sans doute liée au fait que cette précarité, elle touche toutes les générations depuis maintenant une trentaine d'années. Donc c'est effectivement une situation qu'on observe. Tout ça, finalement, les jeunes ont intégré l'idée qu'ils allaient subir un déclassement par rapport aux générations précédentes, que l'âge d'accès à l'autonomie financière, à leur indépendance, allait être repoussé.
L'âge du premier CDI aussi, toujours plus loin.
Voilà, tout à fait. Donc l'âge, finalement, où on arrive à se défaire un peu de cette dépendance des solidarités familiales, institutionnelles. Donc cet âge-là, il est effectivement repoussé. Faut pas oublier aussi que l'accès finalement aux minima sociaux est très restreint pour les moins de 25 ans.
Oui.
Donc tout ça, ça joue aussi sur les possibilités qu'ils peuvent avoir vers une autonomie effectivement qui devrait leur être plus garantie effectivement. Mais la situation actuelle est devenue effectivement très très délicate pour les 18-29 ans notamment.
Laura, est-ce que la question des inégalités sociales, c'est un sujet à Stop Ficha et dans les collectifs auxquels vous appartenez? Est-ce que vous en parlez et de quelle manière?
Au sein de Stop Ficha, il n'y a pas vraiment de question d'inégalité sociale, du fait que voilà, tout se fait sur les réseaux sociaux et il n'y a pas vraiment de différence entre une personne riche ou pauvre qui va être affichée. Mais par contre, en fait, les inégalités sociales, quand on est dans une situation assez confortable, je sais que dans Ecophilia, cet hiver, on a été faire de la soupe pour la distribuer aux personnes dans la rue. En fait, c'est dans le militantisme que j'ai vraiment été confrontée à ces inégalités sociales. Et donc voilà, par des rencontres, par des témoignages... par rapport aux violences policières que subissent bien plus fortement les personnes dans la rue, également par rapport à la démocratie, justement, toutes ces histoires d'amendes, les personnes sans abri en reçoivent. Alors, on ne sait pas où, mais en tout cas, elles en reçoivent. Donc, c'est-à-dire que même si un jour, ces personnes arrivent à trouver un emploi ou une situation, elles devront payer déjà des centaines d'euros d'amendes pour avoir été dans la rue. Donc voilà, et en tout cas, par rapport à Buddy System Réfugié, c'est également, c'est des chocs intérieurs qui modifient un peu notre engagement et la manière dont on inclut les personnes aussi dans nos discours et dans notre militantisme et nos centres d'intérêt. En fait, dans Buddy System Réfugié, c'est vraiment comprendre à quel point le système français n'accepte pas ces personnes et fait en sorte qu'elles soient dans une plus grande précarité. Et en fait, c'est toujours ces alternatives, donc ces associations qui prennent en charge et les institutions qui comptent sur les associations pour faire tout ce boulot, quoi. Donc, de mon côté, c'est de toute façon le militantisme et l'engagement, c'est toujours en construction et il évolue forcément et c'est ça qui est très intéressant et en fait, on doit encore se déconstruire et prendre en compte tout ça parce que on se rend compte que parfois le militantisme, enfin, toujours même, le militantisme, c'est un privilège parce qu'on a le temps de militer. On a, là, pour Stop Ficha, les outils numériques, donc un téléphone, un ordinateur, une tablette ou je ne sais quoi, pour militer dans Stop Ficha. Et en fait, on se remet en question, mais c'est quand même difficile de se dire, OK, je milite dans une lutte, mais il faut aussi que je prenne en compte telle personne. Donc voilà, c'est quand même un peu compliqué, mais il faut toujours se remettre en question et essayer de trouver des alternatives au niveau des mots qu'on utilise, des méthodes, essayer de les rendre accessibles, que tout le monde soit confortable. Donc voilà, c'est quand même toujours compliqué de recréer en fait des petits écosystèmes de militantisme, mais sur des bases très saines et très inclusives et voilà.
Donc on l'aura compris, Laura, vous êtes dans une logique donc intersectionnelle, ce gros mot qui fait apparemment très peur à nos ministres. On pourrait encore en parler pendant des heures, mais on va conclure cet entretien. Merci à tous les deux d'être venus et d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver Stop Ficha sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Instagram et depuis très peu sur TikTok. Et vous pourrez retrouver l'ouvrage Génération désenchantée, donc je vous rappelle, paru le 23 mars aux éditions de la Documentation française, en ligne et dans quelques librairies, n'hésitez pas à commander. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de Mediapart sur mediapart.fr. Merci à tous.
Merci.
Merci Laura et à bientôt.